Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui l'écrivain Stéphane Bourguignon, auteur de 4 romans fort remarqués, ainsi que des téléséries « Tout sur moi » et surtout « la vie », une œuvre inspirée qui a connu un succès retentissant. En compagnie d'Aline Apostolska, animatrice des médias littéraires de la Grande Bibliothèque, vous découvrirez ses sources d'inspiration, ses rituels d'écriture et les aspects de sa vie qui ont fait naître le désir de création. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Avant de céder la parole à Mme Apostolska, je vous convie au prochain midi littéraire, le 10 février, en compagnie de Nicole Brossard. Veuillez noter qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail Internet de BANQ. Merci aussi d'éteindre vos téléphones cellulaires. Je vous souhaite à tous une très bonne rencontre.
Bonjour. Merci d'avoir bravé la tempête, enfin pas vraiment la tempête, mais la neige, quand même, première neige. Ah oui, c'est vrai que le pire nous attend. Le pire, c'est demain, je crois, parce que ça va fondre. En attendant, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui, pour clore cette saison 2008, ça se fait 2 saisons pleines maintenant pour nous, c'est un moment important et on va poursuivre en 2009, donc de recevoir un écrivain fort populaire et qu'il est devenu dès l'apparition de son premier roman il y a exactement 15 ans. Il a publié 4 romans en 15 ans, dont un lui a valu en 2003 le prix intercollégial. Mais notre invité est autant connu comme scénariste, auteur des 39 épisodes d'une série télévisée qui fut elle aussi sa première et remporta aussitôt une vive adhésion ainsi qu'une identification du public au personnage de la série, pour ne pas la nommer la vie, qui lui a valu 2 prix Gémeaux pour le meilleur scénario et a été vendu en France, en Suisse, en Belgique ainsi qu'à CBC. Depuis 2007, le succès de l'écriture télévisuelle se poursuit avec la comédie « Tout sur moi », dont la ressemblance avec des faits et des personnages réels n'est ni fortuite ni involontaire, et qui lui a aussi valu un prix Gémeaux l'année dernière, dont la seconde saison sera diffusée à Radio-Canada en 2009. L'identification du public est donc toujours citée comme une clé du succès que connaissent son univers et son écriture. Et pourtant, alors qu'on le dit très représentatif de sa génération québécoise, lui privilégie surtout la singularité, l'intimité et l'unicité de ses personnages dans ses romans comme dans ses scénarios. En tout cas, il tend certainement un miroir critique mais tendre et surtout original, inattendu, non conventionnel, du Québec, mais aussi de l'Amérique du Nord d'aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement M. Stéphane Bourguignon.
Mon Dieu. Quelle entrée en matière.
Ah ben, je mets la table.
Ben oui, c'est bien mise.
Il n'y a rien d'autre à manger que votre vie, en fait.
OK.
Votre vie, la vie. Ouais. C'est une entrevue sur la vie de Stéphane Bourguignon à l'intérieur de ses 60, j'allais dire 60 années, oups, de ses quarantaine d'années de québécoise, montréalaise et à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Ça me paraissait intéressant de tout de suite replacer les choses comme ça parce que ça, c'en est une de caractéristiques, je crois, moi qui ai lu l'ensemble de vos romans, de situer tout de suite les personnages qui sont à Montréal, qui sont dans le Québec, mais qui sont tout de suite dans un microcosme qui est là, vraiment très américain et qui fait une identité aussi. Alors, je vous le disais tout à l'heure en coulisses, la première question ici est une question de police. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Bourguignon, Stéphane. Lieu de naissance, Laval. à Chamédé, en fait, où j'ai passé les 5 premières années de ma vie. Et très tôt, on est déménagé à Montréal, dans ce qu'on appelait à l'époque Bordeaux, mais qui est maintenant aujourd'hui Cartierville. À l'époque, c'était juste en arrière de la prison de Bordeaux.
D'accord.
Parce que tantôt, vous me parliez de l'angle de l'interview, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu me mener à devenir auteur. Et puis, vraiment, sincèrement, c'est une question que je me pose périodiquement, mais pas avec beaucoup d'entrain, pas avec beaucoup d'attention non plus. Et j'ai donc pas beaucoup de réponses à ça. Mais je me dis que cet endroit-là où je suis déménagé après, sur la rue Bois-de-Boulogne, qui était près de la rivière des Prairies, en arrière, près d'une voie ferrée, en arrière de la prison de Bordeaux.
Oui.
Et cette voie ferrée-là traversait la rivière des Prairies à cet endroit-là en passant sur une petite île qui est maintenant un parc aujourd'hui, mais qu'à l'époque, on appelait l'île aux fesses, pour les raisons que vous imaginez. Je pense que ce quartier-là, qui était un petit peu arrêté dans le temps et qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y avait la voie ferrée, la prison surtout, cette île, la rivière...
Oui.
Il y avait comme un climat propice, je pense, à l'imagination d'un jeune garçon.
Mais vous n'avez pas donné votre date de naissance
d'abord. Ah, 64.
D'accord. Donc, c'est la moitié des années 60. C'est
oui.
aussi ça. Est-ce que ce climat-là est rattaché aussi à quelque chose de particulier de ces... Parce que là, si on retourne au même endroit aujourd'hui, on ne va évidemment pas voir la même chose.
Non, mais étrangement, ça n'a pas beaucoup changé géographiquement et architecturalement. Mais je pense que la grosse différence, en tout cas, une des grosses différences, c'est que si je me rappelle de ces années-là, c'est que les enfants étaient toujours dehors. On était toujours dehors et on avait toujours des amis dehors. On ne jouait pas dans la maison. On rentrait de l'école, on jetait nos affaires à terre, on mangeait quelque chose, on sortait dehors, il y avait... 8-10 amis qui traînaient dans le coin. Et la brochette d'âge était grande. En tout cas, chez nous, ma sœur, qui avait 5 ans, plus vieux que moi, était avec ses amis. Puis moi, si j'étais chanceux ce jour-là, je pouvais les suivre. Puis sinon,
oui.
J'étais avec mes cousins qui restaient à 2 maisons. Mais on était toujours dehors, hiver comme été, à faire des mauvais coups surtout. Mais quelques
oui.
bons, mais surtout des mauvais.
Donc, c'est des souvenirs joyeux que vous évoquez là?
Oui. Absolument.
C'est la première impression qui vous reste si vous deviez parler de votre enfance, justement, disons, de la petite enfance. C'est l'impression de joie, de partage, vous avez dit aussi, de famille élargie. Est-ce que vous habitiez proche?
En fait, c'est comme une enfance sans parents, je trouve.
Ah oui.
Ou même si les parents étaient présents. Et dans ce temps-là, les parents ne passaient pas leur temps à parler aux enfants comme on fait maintenant. Dans ce temps-là, les parents foutaient la paix aux enfants, puis les enfants pouvaient jouer avec du monde de leur âge.
D'ailleurs, les résultats sont fort peu probants. Hein?
Pardon?
Les résultats sont fort peu probants.
Aujourd'hui.
On en parle beaucoup, mais...
Mais c'est ça, ça ne donne pas grand-chose. Et donc, on était beaucoup entre nous. Une fois de temps en temps, c'est vrai, il y avait un adulte qui arrivait et qui faisait « Hey, faites pas ci, oui, faites pas ça ». Mais on était un peu les enfants de tout le monde. Sur la rue, dans le fond, tout le monde avait autorité. Tous les adultes avaient autorité sur nous. Et en même temps, personne n'avait une autorité vraiment, vraiment solide. Tu sais, en même temps, on n'était pas des voyous, mais c'était, je sais pas.
Ouais.
Oui.
Est-ce que vous avez remarqué, ça me fait penser à une chose là tout de suite en vous écoutant, il y a eu ces films qui ont eu beaucoup de succès populaires, qui se passaient tous dans une espèce d'ambiance des années 60,
du Québec
des années 60.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une nostalgie qui... Parce que si je pense à un film comme « Sans point ni coup sûr » ou comme les années, justement, ceux qui étaient juste avant,
ouais.
toutes les... Il y en a eu plusieurs,
ouais.
là, coup sur coup.
Mais je pense premièrement, je pense que c'est une époque, soit les années 60, les années 70... Moi, ça, finalement, c'est les années 70, début des années 70.
Oui, la petite enfance, fin 60,
ouais,
quoi.
C'est
oui.
ça. Donc, je pense que c'est des années qui sont le fun esthétiquement à recréer, parce que les voitures étaient belles. Aussi, la mode revient un peu à la mode
oui.
aujourd'hui. Donc, il y a comme un lien qui se tisse entre les deux époques. Mais je pense que... Moi, en tout cas, je vois un gros changement. Je ne me répéterai pas, mais je vois un gros changement au niveau de la vie des enfants. Et je pense que si je compare avec aujourd'hui, moi j'ai des enfants puis les jeunes que je connais, la façon de cultiver un monde intérieur n'était pas la même à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut canaliser la vie intérieure de nos enfants en les forçant à lire ou en contrôlant ce qu'ils regardent à la télévision, en essayant de louer des films qui vont être un peu plus stimulants, mettons, que ce qu'ils trouveraient juste à la télévision. Ou leur horaire est chargé, est réglementé, tout ça. Puis, nous, à notre époque, on lisait très peu. Moi, mes parents m'encourageaient pas. Il y avait, premièrement, il y avait très peu de livres pour enfants. Hein. Puis, mes parents, c'était pas des grands lecteurs. Ils lisaient le journal, mais pas de littérature. On allait très peu au cinéma non plus. Les émissions pour enfants, il n'y en existait presque pas. Mais on était dehors, on jouait, on s'inventait des mondes incroyables.
C'est
on était toujours dans l'imagination.
Tout le temps dans l'imaginaire de l'enfance. Ouais. Oui,
absolument.
Oui, mais justement, qui étaient vos parents?
Mes parents, mon père est un imprimeur et ma mère était secrétaire. Et puis, mon père a eu, il travaillait à l'imprimerie familiale. En fait, les Bourguignons qui sont arrivés ici en 1700 quelques, le premier Bourguignon était typographe. Et jusqu'à mon père, encore j'ai des membres dans ma famille qui sont encore dans l'imprimerie, jusqu'à mon père, ils ont toujours été dans l'imprimerie de père en fils.
Est-ce qu'ils venaient vraiment de Bourgogne?
Et oui, c'était un collerette, dit le Bourguignon, parce qu'il venait de Bourgogne.
D'accord.
Et puis donc, ça aussi, c'est un événement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans mon enfance. Les fins de semaine, souvent, j'allais à l'imprimerie avec mon père.
Ah.
Et même si c'était une imprimerie qui n'imprimait pas des livres, elle imprimait des affiches, des boîtes de carton. Il y avait une odeur,
oui,
de l'encre, il y avait l'odeur du papier aussi. Et tout le travail graphique, évidemment, à l'époque, on faisait encore les lettrages avec des lettres en plomb. Et je me rappelle, moi, une image qui est très forte pour moi, c'est celle de regarder mon père écrire à la table de cuisine n'importe quoi et de voir... En fait, le stylo bille, et où la bille touche le papier, de voir apparaître des lettres quasi parfaites, parce que mon père avait une calligraphie, écrivant en lettres carrées, mais imprimeur, pas sa vie dans l'imprimeur. Il faisait des caractères parfaits. Et je trouvais ça magique de voir ces lettres qui apparaissaient sur le papier.
L'univers. Ouais. Ah oui, ça vous a marqué. C'est
beaucoup
vrai que c'est une image forte.
Oui.
C'est une image très visuelle en même temps, je veux dire.
Très visuelle. Et pour moi, le travail d'écriture, c'est un travail très visuel aussi.
Oui.
Oui, c'est pour ça que.
C'est-à-dire.
Voir la lettre apparaître sur la page, sur l'écran, pour moi, c'est d'abord un plaisir esthétique. Ou en tout cas, autant un plaisir esthétique qu'un plaisir de création.
Mais...
Il faut que les mots soient jolis, il faut qu'il y ait une symétrie dans l'organisation de la page. Je perds beaucoup de temps à jouer avec les marges, à choisir le lettrage. Parce que, par exemple, quand on commence un livre, on va passer un an ou deux ou trois avec cette mise en page-là. Tu sais, donc, moi, je soigne beaucoup ça, même si ça ne sera pas ça qui va être nécessairement choisi pour l'impression du livre. Là, mais pour mon travail, moi, pour que les choses...
Et vous le faites aussi à l'écran, même si ce n'est pas à la main?
Oui, c'est surtout à l'écran, en fait, parce que j'écris vraiment mal.
Mm.
Et donc, souvent, je ne suis même pas capable de relire mes notes. Mais des fois, j'aime le contact, par exemple, du crayon avec le rituel du crayon avec le papier. Mmh. Mais ça ne dure jamais très longtemps parce que esthétiquement, c'est beaucoup plus beau.
Stéphane Bourguignon, ça me fait penser qu'on oublie une chose qui m'apparaît essentielle souvent. C'est qu'on pense toujours que l'écriture est d'abord une chose intellectuelle. Or, c'est d'abord une chose manuelle.
Oui.
Parce qu'il faut vraiment d'abord laisser la liberté à la main et elle est connectée au cerveau.
C'est assez physique, pas assez à mon goût. Moi, j'envie beaucoup les peintres qui peuvent travailler debout avec des gros outils et qui peuvent évoluer dans l'espace en travaillant. Ça, j'envie beaucoup ça. Moi, ça me manque. La sédentarité du travail d'auteur me pèse. J'ai eu des périodes où j'écrivais debout, par exemple, que j'aimais beaucoup. Il y avait comme quelque chose de plus... physique là-dedans.
De bouger, oui.
C'est qu'on a envie, c'est qu'à un moment donné, en tout cas pour moi, surtout dans l'écriture d'un roman, où c'est l'écriture pour la télévision, c'est un peu plus technique, donc c'est un petit peu plus dur de décoller des fois, mais dans l'écriture d'un roman, on peut vraiment décoller, et là, à ce moment-là, on aurait comme envie de suivre un rythme, peut-être comme un musicien, par exemple, qui est en train de faire un solo de guitare, qui a envie physiquement de participer à ce que ses doigts font, et à ce que son oreille entend. Et moi, c'est ça aussi. J'aimerais pouvoir participer davantage physiquement avec ce qui se déroule dans ma tête. Et je sais que j'ai des gestes, des fois, en écrivant, qui sont des gestes incontrôlés, qu'on pourrait trouver étranges, je pense, si on les surprenait de l'extérieur.
Bon. Alors, c'est ça aussi, c'est que ça renvoie à ce que vous disiez de votre enfant, c'est-à-dire ce besoin d'aller dehors, ce besoin de créer
de
des choses physiques, ouais. d'avoir aussi toute. Mais donc, et votre mère était secrétaire, c'était pas tellement au niveau des métiers, mais savoir comment est-ce que dans votre famille, vous sentiez, vous aviez une sœur de 5 ans, votre aînée, est-ce que vous étiez deux ?
Oui.
Est-ce que, comment vous, quand vous pensez aujourd'hui au petit garçon que vous étiez, mettons, avant d'aller à l'école, est-ce que vous étiez surtout sociable, comme vous l'avez dit, certainement
ou très sociable, beaucoup plus que maintenant.
Très sportif, etc.
Pas vraiment du sport. Oui, je faisais du hockey. Mon père tenait à ce que je fasse du hockey. Oui. Fait que je faisais du hockey. Je pense comme tous les garçons à cette époque-là, on était dans une équipe de hockey. Très sociable. Oui, moi, je m'arrêtais, ça a l'air que maternelle, il fallait que des fois que ma sœur revienne me chercher parce que je suis arrêté au coin d'une rue puis je jasais avec un monsieur ou une madame. Ou...
Ah ah, oui.
Oui, 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 ce qui est tout à fait l'inverse de ce que je suis aujourd'hui.
Ouais. Ah oui, vous
oui,
croyez en... Ah oui, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus sociable.
Je suis très sauvage, moi, ça paraît pas, là, mais très, très sauvage.
C'est arrivé à quel moment, cette sauvagerie-là?
Je sais pas trop. C'est arrivé... Tranquillement, pas vite, je pense. Peut-être à partir de la fin de l'adolescence.
D'accord. Mm. Votre entrée à l'école, comment ça se passe?
Je ne le sais bien pas. Je pense que j'étais bien accrochée à ma mère. Je pense que j'ai dû trouver ça difficile. Et puis, j'ai jamais vraiment aimé l'école. J'ai toujours trouvé, évidemment, qu'on m'enfermait dans une classe. Et je me rappelle aussi, après avoir vécu sur la rue Bois-de-Boulogne, on est déménagé dans les Laurentides, entre Saint-Jérôme et La Chute, sur le bord d'un grand lac, où mon père avait un chalet qui a fait des plans pour la transformer en maison, puis on est allé vivre là 2 ans. À ce moment-là, j'ai été à l'école à La Chute. Et de ma classe à La Chute, je voyais encore une voie ferrée avec une gare et des montagnes. Et j'avais vraiment l'impression qu'on m'astreignait, qu'on me faisait vivre en captivité, dans le fond.
C'est marrant, cette répétition de la voie ferrée comme un appel vers l'ailleurs, la rêverie. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Où est-ce que ça s'en va?
C'est ça, c'est les départs. C'est, toute la fiction est là. Hein?
Oui.
Le voyage, écrire un roman, c'est partir en voyage.
Est-ce que déjà, lire ça évoquait roman, ça pour vous?
Non, j'aurais pas pu le dire à l'époque. Mais je sais qu'une des activités principales des garçons de mon âge à ce moment-là, c'était d'aller mettre des sous noirs sur la voie ferrée puis d'attendre que le train passe puis d'essayer de les retrouver après pour les voir à quel point ils étaient aplatis. Ou fumer en cachette en dessous du quai. Comme il y a des scènes dans Un peu de fatigue qui sont assez telles quelles tirées de mon enfance dans cette région.
Ah, ben oui, justement. Mais quelle était votre matière préférée quand même? Est-ce que c'était déjà relié à l'écriture, à la littérature ou pas du tout?
Non. C'est pas relié. Je pense que là où j'ai commencé peut-être à voir un signe que quelque chose dans la fiction pouvait m'appeler ou m'atteindre, je pense que c'est en secondaire 3 à peu près, ou non, secondaire 2. Non, secondaire 1, en fait. Où on a commencé à avoir des vraies créations littéraires à faire au collège.
D'accord.
Et puis, où j'ai commencé à prendre un plaisir, je pense particulier, si je le compare au plaisir que mes amis à l'école avaient à faire le même devoir que moi, je pense que j'avais beaucoup plus de plaisir qu'eux autres à inventer une histoire. Et puis, j'ai commencé... Ça m'a mené à l'écriture quand même assez tôt, en secondaire 3, où j'ai commencé à écrire à peu près quotidiennement.
Ah oui, c'est vrai, c'est très tôt. C'est quoi ça? C'est 14 ans?
14 et 15 ans, oui.
Oui. Mais quels sont les livres dont vous vous souvenez? Vous avez dit tout à l'heure, je lisais pas beaucoup,
non.
Mes parents ne nous poussaient pas à le faire,
non,
c'est vrai. Mais est-ce qu'il y en a qui ont quand même marqué?
Je dirais Bob Moran.
Oui.
La collection des Bob Moran.
Lui, il prenait le train pas mal.
Lui, oui, c'est vrai qu'il était beaucoup en train. qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont... Il y avait des livres pour adultes que je prenais. Je me rappelle d'une saison dans la vie d'Emmanuel,
oui.
De Marie-Claire Blais, que j'avais trouvé chez nous. Des livres de Benoît de Groux que j'avais lus, pas en entier, mais des passages.
Ça, c'est des livres qui étaient parus à ce temps-là, quasiment.
Oui, oui, c'est des livres qui traînaient chez nous, que mes parents avaient lus ou achetés.
Oui.
Il y en avait très peu, je ne sais pas. Mon père était aimait beaucoup, beaucoup la musique. Il avait une bonne collection de disques jazz. Et il lisait des romans policiers, en fait.
Et vous aussi?
Moi, j'en ai lu quelques-uns, mais... j'imagine que les Bob Moran... Ah, ben peut-être qu'ils avaient été achetés pour ma sœur. Mais... Sinon, c'était des encyclopédies. On avait des encyclopédies, puis je feuilletais les encyclopédies.
Mais je veux dire, le contact avec le papier, le livre, c'est quand même quelque chose que vous avez développé, parce que ce que j'essaye de voir et de vous faire dire, c'est comment vous en êtes venu à avoir envie d'écrire des livres, des livres ou des histoires, enfin, très tôt.
C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que un jour, quand j'ai publié un livre, il y a eu la jonction de l'aspect physique du livre et la jonction de l'aspect intellectuel de ce travail-là. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait le papier, qui aimait l'encre et qui aimait l'odeur de tout ça. Mon père, à cause de l'imprimé, il ramenait des fois, vous savez, dans les pots de médicaments, souvent les effets secondaires, tout ça, c'est écrit sur un grand papier qui est plié 12 fois, genre, puis qui est inséré dans la bouteille. Mm. Bon, ben chez nous, mon père, des fois, il ramenait une pile de ces papiers-là qu'on devait plier pendant la fin de semaine. Parce que c'était la job qu'il y avait eu à l'imprimerie, tu sais, c'était une commande. Fait que nous, on faisait ça, ils nous payaient. On faisait ça, mais tout le temps, on était dans l'odeur de papier, on manipulait. Bon, ça, c'est une chose pour moi, la physicalité de la chose. Après ça, pour ce qui est du travail intellectuel et du plaisir de travailler avec les mots, c'est apparu en secondaire 3 et plus en secondaire 4, où j'avais des amis qui écrivaient de la poésie et ça semblait pogner beaucoup avec les filles. Et comme moi, je n'étais pas capable de jouer de la guitare, c'est-à-dire j'avais raté ma première chance d'avoir du succès avec les filles, j'ai commencé à écrire de la poésie aussi avec ces gens-là. Et très vite, mais très, très vite, je pouvais passer facilement 2 heures, 3 heures chaque soir à travailler sur une strophe, sur une phrase, juste encore là à trouver le mot juste. Donc, je voyais pas le temps passer quand j'embarquais dans cette...
C'est toujours le cas?
C'est toujours... Je le sens un peu plus passer, mais je le vois pas plus.
C'est des années fantastiques aussi. C'est le début des années 70. C'est les années 70 au Québec. C'est ça aussi, c'est que c'est des années qui sont d'une extraordinaire effervescence. On en a la nostalgie à cause de l'esthétique et tout ça, mais aussi parce que c'est des années de liberté, de créativité. On aime bien s'y référer aujourd'hui. Puis c'est en quelque sorte un peu le début de choses et qu'on voit aujourd'hui déjà établies. Vous rappelez de
ce bouillonnement-là? À cet âge-là, évidemment, on n'a pas de terrain de comparaison.
Oui.
Les choses fortes qu'on se rappelle, la guerre froide, les compétitions de hockey Canada-Russie, ça, c'est des choses aussi qui marquaient fort l'imaginaire.
Aujourd'hui, les Russes jouent ici.
Oui, c'est ça. Maintenant, ils sont rendus ici, puis on les aime bien.
Ça a beaucoup évolué.
C'était important.
C'est vrai.
Mais non, moi, c'est toujours cet aspect-là du sauvage, en fait.
Mais parce que la fin des années 70, là, vous êtes dans l'adolescence. Donc,
fin des années 70, oui. Oui.
Oui, donc là, c'est toute cette partie.
Ça, c'est plus le collège de gars. Donc, on a juste hâte d'en sortir. Encore là, assez prisonnier d'une structure qui nous embête un peu. On a juste hâte d'arriver au cégep, finalement. Puis cégep, c'est pas quoi faire avec
c'est
ça.
C'est le début des cégeps, en plus.
Oui, ben, je sais pas. Non, je pense que les cégeps, ça faisait un bout de temps quand même.
Je crois pas. Je crois que ça faisait pas très longtemps. C'est-à-dire dans les années 70, années 70, là. Mais comment vous avez choisi la scénarisation, alors, finalement?
Bon, ben ça, c'est arrivé vraiment par hasard, parce que, étrangement, toutes ces années-là passées à écrire, pour moi, jamais m'était venu à l'idée de gagner ma vie en écrivant. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que mes parents... j'ai voulu être acteur à une certaine époque. Mes parents ont essayé de m'en décourager. Je pense que ma mère était particulièrement insécure par rapport à l'argent pour elle-même. Fait que je pense qu'encore aujourd'hui, elle ne peut même pas concevoir que je pratique ce métier-là. Elle ne comprend pas comment je puisse... endurer les contraintes d'insécurité. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pense que mon père aussi, qui était musicien, avait un peu abandonné la musique pour travailler une job plus sérieuse aussi, par peur de la précarité. Tout ça. Donc, pour moi, je n'imaginais pas faire un travail là-dedans, puis je n'ai pas fini mon cégep. Bref, j'étais assis entre quatre chaises, avec pas grand-chose devant moi, Et à l'UQAM, il y avait le programme d'inscription par expérience pertinente, c'est-à-dire que si on trouvait un domaine dans lequel on avait une certaine expérience, on pouvait être accepté même si on n'avait pas notre diplôme d'études collégiales. Alors, j'ai fait venir la documentation de l'université au complet, tous les programmes, j'ai regardé ça. Et à un moment donné, je suis tombé sur scénarisation cinématographique. Et je me suis dit, ah tiens, intéressant. Puis je me suis inscrit là en envoyant des propositions, en fait, de films que j'ai créés pour l'occasion. Que, évidemment, ça a été ça, mon expérience pertinente. Ils m'ont dit, oui, OK. Fait que j'ai été étudié, j'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique à l'UQAM. Et j'ai commencé La Valeur de sable exactement en même temps, parce que moi, j'étais dans un milieu où j'avais pas d'amis qui s'intéressaient à la littérature. J'avais des amis qui s'intéressaient un peu au théâtre, mais pas vraiment à la littérature. Et quand je suis rentré à l'université, même le beau de la chose, c'est que les enseignants étaient tous du monde du milieu, qui avaient une charge de cours. Et ils sont tout de suite adressés à nous comme si on était des véritables auteurs, alors qu'on n'avait personne, rien fait de nécessairement intéressant. Et moi, assoiffé d'en connaître un peu plus maintenant sur l'écriture, c'est la première fois qu'on s'adressait à moi comme un auteur, c'est la première fois qu'on me parlait de technique d'écriture, même si c'était pour la scénarisation, tout ce que je pouvais récupérer, je l'appliquais chez nous le soir à l'écriture de La Valeur de sable, qui a commencé à cette époque-là.
Alors oui, donc ça veut dire que c'était parallèle dès le départ, parce qu'aujourd'hui, oui, une des questions qu'on se pose et que je voulais moi-même vous poser, que je vous poserai tout à l'heure, c'est effectivement comment vous passez de l'un à l'autre. Mais je vois que c'était déjà parallèle dès le départ. Ouais. Et ça, c'est toutes les années 80, en fait, parce que vous... Donc là, je voyais dans votre biographie que vous avez tout de suite commencé par travailler en humour.
Oui.
En tant que scripteur, script-éditeur et concepteur. Bon, La Valeur de sable, ça s'est publié plus tard
mais oui.
Forcément, ça a dû être écrit avant.
Ça m'a pris 7 ans de travail dans ce livre-là, parce qu'évidemment, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas trop ce que j'étais en train de faire, je ne savais pas comment m'y prendre. Fait qu'il y avait des périodes où j'étais pris, je ne savais pas comment développer mon histoire davantage. C'est aussi un livre que j'ai travaillé énormément. J'ai repassé dessus 1 milliard de fois.
Mais 7 ans, mais ça veut dire aussi beaucoup de persévérance, décider de garder toujours le même texte et de retravailler dessus.
Oui. Je ne serais pas capable aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, je ne sais pas, il y avait une volonté de publier un roman, ça c'est sûr. Je voulais publier un roman avant 30 ans, avant l'âge de 30 ans. Finalement, il est sorti à 29. Vraiment juste par la peau des dents.
C'est pas mal. C'est réussi, au moins, le pari est réussi.
C'est réussi, oui. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi.
S'il est sorti à 29, ça veut dire que vous l'écriviez déjà depuis 22 ans.
Oui.
Et juste me raconter ça, parce que ça me paraît vraiment intéressant. Donc, en même temps, vous travaillez sur les scripts.
Oui.
Et puis, est-ce qu'il y a une influence immédiate et directe de la façon d'écrire des scénarios dans votre façon d'écrire des romans?
Bon, ça, il faudrait nuancer par livre, parce que ce qui s'est passé, je pense que les vases de l'écriture sont un peu communicants. En ce sens que, par rapport à La Valeur de sable, qui est probablement mon roman le plus drôle aussi, c'est pas pour rien, c'est que si je passais les 40 premières heures de ma semaine à écrire des gags pour différentes émissions de radio, donc... Il y avait quelque chose qui faisait qu'en travaillant La Valeur de sable, je pouvais pas, parce que quand on doit... J'avais 2 emplois. À une certaine époque, j'ai écrit quelque chose comme 4000 pages de gags en une année à cause des emplois que j'avais. Donc, il fallait toujours que ma tête soit tournée vers ça. Okay? Donc, je lisais les journaux, l'actualité, tout ça. Il fallait toujours que je pense en termes de gags. Et c'était quand même possible.
Il faut avoir une disposition
quand même. Bien, c'est ça. Il faut se mettre dans un état mental particulier.
Oui.
Et c'est quand même possible d'aller écrire un roman et de se couper complètement de ça. En tout cas, à l'époque, je n'étais pas capable. Donc, ce livre-là est beaucoup teinté de ça. Après ça, différentes choses, comme par exemple Un peu de fatigue, qui est un roman un petit peu plus exigeant. Mon troisième roman,
on va en parler après. On est rendu plus loin, là.
Oui. Lui, il a été écrit beaucoup en opposition avec La Vie, la Vie, qui était une émission
de télé. Qui est moins drôle, par exemple.
C'est sûr que beaucoup moins drôle.
Beaucoup plus intériorisé.
Beaucoup moins de bons sentiments en réaction à La Vie, la Vie, qui était assez empreinte de bons sentiments. Mm. Donc, c'est toujours comme Son de ton cœur, Laurie Rivers, qui est très sombre, qui est plutôt sombre aussi, est en totale contradiction avec Tout sur moi, qui a été écrit à la même époque. Donc, pour moi, c'est une question d'équilibre, J'ai les deux pôles, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'exprimer sous plusieurs genres. Et il faut que je trouve un équilibre là-dedans. J'ai tendance aussi à vouloir... quand je suis dans un, je m'ennuie de l'autre. Ça veut dire quand j'écris une comédie, je m'ennuie du drame. Quand j'écris un drame, je m'ennuie de la comédie.
Ben d'où ce que je comprends aussi, ce qui me vient par rapport à ce que vous dites, c'est aussi cette notion de l'immobilité et du besoin de mobilité, du besoin d'intériorité, mais du besoin de communiquer, du besoin de sauvagerie et de la sociabilité, et puis comme ça. Mais c'est aussi une chance d'avoir les deux.
Pardon. C'est oui. Je sais pas. Hein, c'est, oui, j'imagine. C'est sûr que pour moi, ça me permet, par exemple, de bien gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime.
Oui.
C'est-à-dire qu'on s'entend pour dire que faire de la télévision, c'est beaucoup plus payant qu'écrire des romans.
C'est sûr.
Et ça, j'aime ça. C'est un médium que j'aime beaucoup, en lequel je crois beaucoup. C'est surtout un médium où je trouve où il reste beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que c'est un médium beaucoup plus jeune que l'écriture romanesque. Mm. Et on n'est pas sclérosé comme créateur par un corpus mondial qui nous écrase les épaules. C'est-à-dire quand on sort un roman aujourd'hui, on se dit pourquoi j'amène ma contribution si modeste dans un lot de chefs-d'œuvre qui ont été publiés depuis.
Quand on est assis à la grande bibliothèque, mettons qu'on se sent un peu.
Ben, c'est ça. Quand on fait de la télévision, on n'a pas ça quand on fait de la télévision.
Mais
on
pourtant,
c'est encore un monde où on peut créer beaucoup.
Pourtant, on a tout de suite dit de la vie, que ça cassait les codes de l'écriture télévisuelle.
C'est ça pour
donc,
moi.
Donc, ça veut dire qu'il y a des codes quand même.
Ah, il y en a des codes. Oui. Mais je veux dire, tout n'a pas été fait, au contraire.
Non,
donc,
non.
C'est faisable d'explorer encore en télévision.
Et puis ça, c'est vraiment un médium qui a quasiment grandi avec vous, là.
Parce oui,
que
aussi.
C'est vraiment très contemporain des années 60, quoi.
Oui.
Ça a
la
été la grande,
surtout, oui.
De grand démarrage.
La fiction a beaucoup changé aussi en télévision depuis 20 ans.
Racontez-moi l'aventure, qui est toujours une très grande aventure. Et moi, je remarque aussi deux choses. C'est que d'accord, vous l'avez écrit pendant 7 ans, mais quand même, pas pour rien. La Valeur de sable a tout de suite été remarquée, sollicitée, a été un succès public aussi, pas seulement critique, mais public. Et puis, pareil pour la vie. Donc, il y a quand même quelque chose de très, je disais tout à l'heure, on vous dit très représentatif de tas de choses, surtout d'une époque, etc. Et en fait, vous êtes surtout très singulier. Et c'est cette singularité qui tout de suite marque. Comment s'est passée l'aventure de la première publication? Parce qu'on sait très bien que c'est toujours très difficile. Même si on avait Catherine Mavrikakis ici le mois dernier et racontait que son premier livre a été refusé 52 fois. Bon, voilà, c'est comme ça.
Oui.
Ben enfin, c'est vrai de Proust, on le sait aussi, s'il n'avait pas décidé de...
Et combien d'auteurs qu'on n'a jamais...
Finalement, il publie chez Grasset en payant un compte d'auteur, alors que Grasset a sans doute refusé le plus violemment. Donc, enfin, on sait tout ça. Comment ça s'est passé pour vous?
Ben, moi, honnêtement, j'avais tellement travaillé mon livre que j'ai l'envoyé à 5 éditeurs, j'ai reçu 3 refus, puis à un moment donné, j'ai eu un appel de Québec-Amérique. Jean Petitgrou, à l'époque, celui qui est parti les éditions à lire après.
Oui.
Et qui était tellement dithyrambique au téléphone que je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une joke. Et puis, il m'a demandé d'aller le rencontrer. D'abord, il pensait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Il ne pouvait pas croire que c'était moi parce que je n'avais jamais rien écrit avant. Puis, en même temps, je n'avais rien écrit, mais moi, je savais que j'avais rien publié, mais moi, j'avais une expérience d'écriture qui datait déjà de mes 14 ans.
Oui, j'écrivais quand même tout le temps pour
Oui, j'écrivais sans arrêt.
Ben oui.
Et donc, je suis descendu à Québec-Amérique. Il y avait Noël Audet qui était là à l'époque, dont j'avais lu un livre qui s'appelait « Écrire de la fiction au Québec » ou quelque chose comme ça. C'était comme un livre destiné à aider les jeunes auteurs. Et c'était un livre qui m'avait servi en quelque part à d'autres moments. Et Noël Audet était là et... Il aimait aussi le livre. Bref, pour moi, c'était comme un nuage.
Consécration. Oui.
Ben, en tout cas, pas nécessairement consécration, mais c'était vraiment une grosse balloune. Je tripais vraiment, vraiment fort. Et puis, le livre, on n'a fait aucun changement au livre, à part, évidemment, beaucoup de fautes d'orthographe, je m'en confesse, qu'on a dû corriger. Mais il n'y a pas eu de travail d'édition. Le
ça
livre
aussi,
est
c'est
sorti,
exceptionnel.
Mais je l'avais tellement travaillé. Et c'est... Moi, j'avais aussi... L'école de l'humour, il faut comprendre que la particularité principale de l'école de l'humour, c'est que apprendre ton métier, je veux dire, en écrivant de l'humour, c'est que tu apprends très vite à te débarrasser de ce qui ne fonctionne pas.
Ah.
C'est-à-dire que si, en humour, s'il y a une joke qui ne marche pas, on l'enlève. On ne peut pas s'astiner pendant 20 ans, dire non, elle est bonne. Écoute, il n'y a personne qui rit. OK? Si elle
d'accord.
est bonne, ça rit. Si elle n'est pas bonne, ça ne rit pas. Et si ça ne rit pas, ben, on l'enlève. T'sais?
C'est sûr donc, qu'il y aurait un certain nombre de romans si on le passait dans le tamis.
Ben, c'est d'avoir une distance par rapport à son propre matériel,
oui,
puis
oui.
d'être capable de dire, ben, ce chapitre-là ou cette page-là, je l'adore, moi, elle me fait vibrer, mais elle ne va pas dans ce livre-là.
Et ça, vous avez acquis ça tout de suite.
Moi, j'avais ça. Ouais, donc, ouais. J'ai...
Parce que vous avez, on n'a pas dit ça, mais vous avez enseigné à l'école de l'humour
ouais.
de 91 à 93. Donc, vous avez
deux
pas
ans, ouais.
seulement, vous aviez un métier qui était celui d'être scripteur, script éditeur, etc. Mais vous enseignez aussi à l'école ouais. nationale de l'humour.
Oui, j'avais un regard sur ma pratique.
Ça, j'ai tout... Oui, mais ça fait beaucoup d'expérience d'écriture quand même. Oui,
même si ce n'est pas d'écriture romanesque. Ben, je ne dis pas que j'avais rien à apprendre, et encore aujourd'hui, j'ai tout à apprendre de ce métier-là.
C'est sûr, mais...
Mais il y a quelques trucs qui m'ont beaucoup servi pour faciliter l'écriture de ce
moment-là. Est-ce que c'est juste de dire que, dès le départ, finalement, vous avez aussi écrit dans le regard du public, parce que c'est ce que vous dites aussi, dans le regard du lecteur, dans le regard du public.
Ben, je pense que oui.
Alors que souvent, les gens qui commencent justement dans l'écriture et l'écriture en général, la littérature, c'est effectivement un regard entre soi et soi.
Oui, mais je pense effectivement que La Valeur de sable était beaucoup plus tournée vers le lecteur que peut-être d'autres livres qui ont suivi même. À cause, entre autres, de cet univers-là dans lequel je baignais au moment de la rédaction de ce livre-là, c'est-à-dire le milieu de l'humour. Où, mon premier job, c'était une émission de radio qui s'appelait le Festival de l'humour québécois, que peut-être les gens ici un peu plus âgés se souviennent. C'était une émission qui était diffusée à CKAC chaque samedi matin avec Louis-Paul Allard, Roger Joubert, Tex Lecor et Pierre Labelle, à une certaine époque, après ça, a été remplacé par Denise Filiatreau. Et ça, c'était une émission d'humour qui était comme une espèce de bye-bye, mais hebdomadaire, c'est-à-dire à chaque semaine, on faisait une revue de l'année. Et c'était l'émission qui avait la plus grosse cote, l'émission radiophonique avec la plus grosse cote d'écoute. L'émission francophone avec la plus grosse cote d'écoute en Amérique du Nord, c'était comme un rendez-vous hebdomadaire que moi, j'écoutais avec mon père quand j'étais petit. Quand mon père, la fin de semaine, bricolait dans le garage, je me rappelle, le poste de radio était ouvert et mon père écoutait cette émission-là. Et 10 ans plus tard... 13 ans plus tard, je me retrouve à travailler sur cette émission-là, récupérée par Pierre Légaré. C'est Pierre Légaré qui était venu me chercher parce qu'on avait un ami commun, l'humoriste Pierre Légaré. Et donc, tout ça pour dire que ce qui était fabuleux avec cette histoire, avec cette émission-là, qui était enregistrée devant public. Alors, on enregistrait le lundi soir devant public. Avant l'enregistrement, on se faisait un meeting, on se divisait entre les auteurs les sujets qu'on allait aborder pendant la semaine. On livrait notre matériel le week-end suivant à Pierre Légaré, qui lui faisait certaines corrections. Et le lundi soir, on se retrouvait devant le public pour voir l'enregistrement de tout ça. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça nous permet d'écrire une semaine et le lundi suivant de voir de visu comment
tout
notre matériel était accueilli ou pas accueilli.
Oui.
Donc, ça, c'est une expérience que j'ai jamais retrouvée.
Puis c'est aussi apprendre
après.
À livrer la marchandise.
Livrer la marchandise,
Et la livrer, et qu'elle fonctionne, et etc. Donc,
ouais.
il y a une notion d'efficacité qui est derrière.
Une notion d'efficacité aussi. Bon, on est dans un autre contexte. Mais le plus important, c'est vraiment celui de pouvoir vérifier devant le public, quasi instantanément, si ce que tu as fait marche ou ne marche pas.
Oui.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera jamais après.
Ah, oui,
dans
oui.
l'écriture d'un roman, par exemple, le roman, quand il est publié, ça fait déjà un an qu'on travaille plus dessus. Pour une télésérie, ça peut faire jusqu'à un an et demi qu'on travaille plus dessus, au moment où c'est diffusé.
Oui.
Donc, cette distance-là entraîne, en tout cas, cause certains problèmes.
En plus d'être, je trouve ça vraiment extraordinaire, quasiment... Là, c'est vraiment la réalisation d'un rêve de se retrouver d'un seul coup, non seulement derrière la radio
ouais.
qu'écoutait le père, mais derrière ce qui
c'était
est dit dans la radio.
Rêve. C'est vraiment mon... Oui, c'est ça. C'était pas vraiment mon rêve, mais je pense que je voyais plus ça comme un clin d'œil du destin,
mais
en
Mais s'il y a une incarnation, je veux dire, ça part de quelque chose qui sont des ondes
oui.
comme ça. Dans...
Oui.
Si on regarde visuellement, c'est des ondes dans un garage, puis d'un coup, ça prend
ouais.
une
un
réelle
mamie,
incarnation.
Là, ouais.
aussi.
Oui.
Ouais. En tout cas, ce que j'entends aussi, là, c'est ça, c'est ce côté arriver à tout de suite communiquer, trouver comment communiquer. Donc, la courroie de transmission entre ce qu'on a écrit et le récepteur de ça, doit être courte quand même. Vous en avez fait un métier, une expertise même, puisque vous l'avez enseigné.
Oui.
Alors moi, j'avais lu une chose que j'ai notée sur mon papier, parce que dans tout ce que j'ai lu sur vous, on disait tout le temps, dans beaucoup, beaucoup de choses que j'ai lues, cette phrase, « Venu par hasard au roman, publie La valeur de sable en 1993 ». Et en fait, je pense que c'est complètement faux.
C'est faux, effectivement. Je suis venu par hasard à la scénarisation.
Oui.
Mais, et par hasard à l'humour, d'ailleurs, hein, c'est vraiment un hasard. Vraiment, on est venu me chercher. J'avais jamais rien écrit de drôle.
Mais un hasard qui, quand même, va chercher des racines quelque part. On n'invente pas l'humour en soi.
Ah non, mais j'étais quelqu'un de drôle. Là.
Oui,
je pouvais être drôle.
Oui.
Mais je n'avais jamais rien écrit de drôle. Et ça, c'est un coup de téléphone, vraiment. La chaîne, comment on appelle ça? Le téléphone arabe, quasiment.
Oui, le téléphone arabe, oui.
Je me suis retrouvé à un bout de ce téléphone-là, mais sans connaître Pierre Légaré, qui était à l'autre bout, l'instigateur de tout ça. Et d'ailleurs, il m'a dit, écris-moi un texte, envoie-moi là, je vais te dire si c'est bon ou non. J'ai fait, OK, j'ai écrit un texte. Il me l'a renvoyé. Il y avait plein de barbeaux, crayons feutres, tout était mauvais. Mais il me disait, ah, tu vois, et c'est le génie de Pierre Légaré que je remercie beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il avait quand même pris le temps de me dire, tu vois, si tu avais fait ça comme ça, ça serait plus drôle si tu faisais ça comme ça. Et c'est ce qu'il a fait la première année, parce que finalement, il m'a embauché pareil, même s'il ne trouvait rien de drôle. Il devait être désespéré, il devait chercher du monde désespérément.
Ben, il a dû trouver un fond quand même.
Mais peut-être,
ouais,
peut-être qu'il
avait
vu un fond. Puis il m'a tout enseigné la première année parce que je connaissais rien à ça.
Alors aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous diriez qui fait la différence? Vous nous avez dit tout ce qui faisait les points communs de ce passage, de l'écriture de scénario et de script et de sketch au roman. Mais si vous nous disiez aujourd'hui ce qui en fait la différence? Et là où il ne faut pas se tromper, justement, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer à l'écriture de romans.
Complètement. Complètement. Et je pense que chaque idée, chaque thème appelle son médium.
Oui.
Et je pense qu'il y a des idées qui doivent être un poème, il y a des idées qui doivent être une chanson, il y a des idées qui doivent être un scénario de long métrage, d'autres un roman et d'autres une série.
Ça, je suis très, très d'accord avec ça, mais comment est-ce qu'on le sait dès le départ? Est-ce que vous le savez dès le départ?
Moi, je le sais dès le départ.
Ah.
Mais il faut que j'y pense pendant un certain temps. Souvent, je peux être tenté, comme, par exemple, ce temps-ci, il y a comme une ou deux idées, en fait, deux idées qui marinent dans ma tête et puis je suis tenté de les mettre à l'épreuve. Donc, je les colle sur une espèce de, dans ma tête, sur une espèce de schéma cinématographique, sur une espèce de schéma télévisuel, une sorte de grille ou romanesque et j'essaie de voir s'ils tiennent la route. Parce que des fois, ça peut être trompeur, oui.
Mais comment vous faites ça? Je veux dire, comment est-ce que vous... On avait aussi Gilles Thibault, par exemple, lui qui nous racontait que lui met tout dans ses marmites. Puis un jour, c'est une marmite, puis il a 50 chaudrons, pardon. Il y a 50 chaudrons qui bouent en même temps, puis un jour, il y a quelque chose qui sort du chaudron. Oui. Bon. Est-ce que quel est ce schéma? Quand est-ce que vous vous dites, bon, telle histoire, par exemple, l'histoire de la vie avec cet entrecroisement surtout de couples, d'amis, mais c'est très contemporain, c'est les gens autour de nous à Montréal, etc. Et puis en même temps, c'est ça, parce que en même temps, c'est nous et c'est pas nous, et ça nous emmène plus loin que ce qu'on vit, mais c'est aussi ce qu'on vit, et toute cette identification, alors là, qui se passe, et puis cette justesse de ton, cette justesse d'écriture, on trouve ça aussi dans vos romans, mais autrement et avec une toute autre profondeur aussi. Quand est-ce que vous voyez que c'est pour l'un ou pour l'autre?
Bien, ça dépend. Encore là, chaque projet a ses particularités. Dans le cas de La vie, c'était vraiment pour moi une envie, un manque. Je regardais ce qu'il y avait à la télévision et ce qu'il voulait s'adresser à moi et je ne trouvais pas mon compte du tout.
D'accord.
Et je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de parler simplement, mais avec émotion, de choses qui nous arrivent à chaque jour.
Oh.
Et non pas d'une prise d'otage, et non pas d'inceste, et non pas de... C'est correct
des
aussi d'en parler.
Des choses exceptionnelles,
oui. Je voulais des petites choses. Je voulais ces détails qui font que des fois, dans la vie, on est dans une situation et puis on veut s'effondrer devant quelqu'un qui nous a dit quelque chose de tout petit.
Ouais.
Mais cette chose-là fait réverbérer à l'intérieur de nous tout un passé, tout un bagage, et toute la structure psychologique de l'être humain qui m'intéresse. Et pourquoi des fois on se dégonfle devant quelqu'un d'anodin mais qui nous rappelle quelque chose? Pourquoi... des fois aussi des grosses victoires. On ressent des petites victoires comme si c'était des grosses victoires, en fait, parce que ça fait des années qu'on essaie juste de dépasser cette petite affaire-là qui nous empêche de progresser dans nos rapports avec nos parents, dans nos rapports avec nos amis, dans nos rapports avec nos amoureux. Ouais. Mais des choses toutes simples, en fait. Et je voyais pas ça, et j'avais le ton dans la tête, je sentais la couleur de cette écriture-là avant même de savoir de quoi il allait être question. Je voulais que ce soit très cinématographique, très pudique dans la façon d'aborder les choses. Il ne fallait pas que ce soit comme du téléroman traditionnel. Donc, je sentais tout ça. Et je me disais, pourquoi ce n'est pas là? Comment ça se fait qu'on n'a pas ça?
Est-ce que ça veut dire que tout de suite aussi, vous voyez des personnages, des acteurs?
Certains personnages, oui. Jamais d'acteurs. Jamais d'acteurs. Pas parce que je ne veux pas, là, mais c'est toujours comme une face blanche qui m'apparaît pour tout le monde. Mais...
On a souvent dit aussi que ce qui faisait un des attraits des personnages de la vie, c'était qu'ils étaient compliqués comme nous, comme les gens de cette génération-là, etc. Mais en fait, ils étaient juste vrais, quoi.
Mais je pense qu'ils étaient juste pluridimensionnels, comme tout le monde. Mm. Et en même temps, moi, très humblement, je veux dire, j'ai appris à connaître les personnages au fil de la série beaucoup. Hein. Je suis parti avec un certain... C'est une série particulière au niveau de son expérience parce que je suis parti en connaissant très peu sur eux. Et ils se sont dévoilés dans l'écriture beaucoup. Et je me suis accroché à eux. Et je les ai suivis. En même temps que ce que les acteurs, quand ils ont commencé à les incarner, parce qu'il y a quand même eu un délai d'un an et demi entre le début de l'écriture puis le début du premier tournage, quand les acteurs ont commencé à incarner les personnages, ils m'ont envoyé quelque chose aussi. J'ai saisi quelque chose et j'ai volé quelque chose des acteurs aussi. Mm. Par miracle, tous les acteurs étaient, sauf un, tous très près du personnage qu'il y avait à jouer. Et donc, ils ont injecté quelque chose de très privé dedans, que moi, j'ai récupéré après. Et la série a comme évolué en convergeant vers le centre dur de quelque chose qui est difficile. Le centre dur émotif de cette équipe-là.
Mais c'est ça. Mais ça, c'est aussi peut-être l'avantage. C'est comme un chorégraphe qui demande quelque chose à ses danseurs, qui le font, et à partir du geste qu'ils font, ils commencent à faire autre chose. Voilà. Mais ça, c'est les médiums qui est différent d'une pièce de théâtre qu'on écrit complètement, puis après, on la donne aux acteurs, aux comédiens. Mais ça, c'est peut-être l'avantage des médiums, justement, très dans le vif aussi.
Bien, c'est pas si dans le vif que ça, mais c'est un médium qui revient. C'est ça, la différence.
Ah, qui revient.
C'est que d'une semaine à l'autre, il y a quelque chose qui se passe, et d'une saison à l'autre, les choses s'installent et dans le public et chez les créateurs. Et le temps passe et à un moment donné, tu vois... Moi, par exemple, quand j'ai vu le premier épisode tourné, ça faisait au moins 3 ans que je travaillais sur la série.
Ah oui.
Donc, il peut pas avoir plus long que ça comme délai entre les deux. Mais aussitôt que je l'ai vu, j'ai fait « Ah, il se passe quelque chose là, il faut que je m'en serve ». Malheureusement, dans ce processus-là, c'est arrivé très tard, il me restait que quelques épisodes à écrire. Mais quand ça a été diffusé. Mais déjà, le tournage arrive un petit peu plus tôt dans le processus. Et là, déjà, on peut se nourrir.
Vous avez refusé de poursuivre. Vous auriez pu poursuivre ad vitam?
Non, j'aurais pas pu, non. Non, c'est pour ça que j'ai refusé, parce que je pensais qu'il me restait peut-être 2 ou 3 émissions à écrire, pas plus. J'aurais pas pu en faire 13, sans commencer justement à injecter des choses qui auraient dénaturé le concept, c'est-à-dire... j'aurais été obligé d'inventer des affaires qu'on dirait en anglais « out of character » pour pouvoir les nourrir, puis ça ne m'intéressait pas.
Alors, ça, c'était la vie, on n'a même pas donné les dates, mais bon, c'était...
2002.
C'est ça, ça a commencé en 2001. En 93, donc, on avait dit « La valeur de sable », mais vous avez publié, 3 ans plus tard, un deuxième roman, « Le principe du geyser ».
Oui.
Et donc, vous étiez aussi, toujours aussi, dans l'écriture de l'un, dans la publication de l'autre, dans l'écriture du scénario de la vie.
Je pense que le principe du geyser, c'est le... En fait, je pense que je n'avais pas commencé la vie. C'est un peu de fatigue qui a été commencé juste avant la vie, genre le premier chapitre, les deux premiers chapitres, et qui a été terminé après. Un peu de fatigue, c'est le principe du geyser, qui est la suite de La valeur de sable.
Oui.
C'est un roman particulier qui a été vraiment écrit avec l'impression, avec l'envie de vouloir ajouter une couche à La valeur de sable. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais envie de revenir sur ce roman-là, même si c'est les mêmes personnages, mais c'est 5 ans plus tard, je pense, ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est une nouvelle histoire, mais Ma façon d'aborder cette histoire-là, ma façon d'explorer l'écriture, le sérieux que j'ai voulu y injecter, c'est des choses que j'aurais aimé faire dans le premier livre. Ça, c'était comme pour finir l'expérience. En fait, ça aurait dû être un seul livre, tout ça. Ça en a été deux.
Ah oui? Mais c'est vrai que souvent, on les présente effectivement comme des livres jumeaux, enfin, qui comme ils vont ensemble.
Ils vont ensemble, c'est les mêmes personnages. Ouais.
Et puis, il clôt une sorte de mini-cycle, quoi.
Oui.
Parce qu'ils sont vraiment à part. Et avec un peu de fatigue, en effet, parce que d'abord, il paraît en 2002, et après qu'on ait découvert La vie, la vie, je sais parce que je vous avais d'ailleurs rencontré à l'époque, et vous disiez déjà que c'était une réaction à La vie, la vie.
Oui.
Alors, justement, expliquez-moi comment est-ce qu'ils ont joué les vases communicants, parce qu'ils ont été écrits en même temps. Donc, comment ont-ils joué les vases communicants?
En fait, ils ont été écrits vraiment un après l'autre, mais c'est sûr que la vie, ça a été une expérience tellement intense, autant d'écriture, autant une expérience d'écriture vraiment, vraiment impressionnamment riche et intense, comme je pense, j'en ai jamais connu après. Je mettais un mois pour écrire chaque épisode et où je vivais seul pour la grosse majorité des 39 épisodes. Là. J'étais séparé, tout ça. Et donc, il y avait comme une charge que je ne suis pas sûr que je vais retrouver un jour cette charge-là. Il y avait une intensité dans l'écriture assez particulière. Je pense que je parlais aussi beaucoup de moi sans en parler, mais beaucoup de mes préoccupations et de mon monde, en quelque part, tu sais, du monde dans lequel je vivais.
Si c'est sûr, oui.
Un peu de fatigue. C'est un livre intense pour moi aussi, mais j'avais envie de déconstruire les choses, premièrement. Mes deux premiers romans étaient très organisés. Une série de télé, c'est assez organisé aussi comme écriture. Puis j'avais envie, dans un peu de fatigue, de me laisser... De suivre le cours de la fiction, d'ouvrir la place aux digressions... J'avais envie d'une espèce de splash de couleurs. J'avais envie de quelque chose d'assez violent, dans le fond, dans sa,
ben, c'est-à-dire
dans sa forme. Et...
le personnage, parce que d'abord, c'est un personnage masculin. D'abord, c'est un homme qui est vraiment le... Contrairement à Sans ton cœur, Laurie... Rivers. C'était vraiment un homme aux prises avec des doutes, qui laisse pousser son jardin, que tout devient complètement le bordel, alors qu'il a justement une maison dans la banlieue qui est très bien rangée, tout bien, un jardin bien fait, etc. Et c'est la même... décomposition du monde extérieur, parce que c'est la décomposition du monde intérieur, et une reconstruction. Et cette fragilité, elle existe aussi, par exemple, c'est une des choses qu'on a beaucoup dites des personnages et de la vérité, de la justesse des personnages de la vie, notamment les personnages masculins qui peuvent... il y a des relations d'amour qui sont fragiles, puis qui éclatent pour un rien, on ne sait pas pourquoi, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des répercussions comme ça, comme vous disiez, émotives. C'est vrai que c'est particulier. À part que dans Un peu de fatigue, c'est le versant un peu sombre, non, de tout ça.
Oui. Il y a une... C'est intéressant parce que... je m'auto-intéresse, coudonc. Parce que...
Mettons que c'est ça l'exercice du jour.
Non, mais je viens de me rendre compte que... dans Un peu de fatigue, c'est ce gars-là qui a été marié pendant très longtemps avec cette femme qu'il aimait beaucoup. Et il est horticulteur. Donc, il a tout organisé son jardin merveilleusement. Et quand le roman commence, ça fait, je pense, 10 ans qu'il n'est plus rien touché. Mais il laisse le sauvage reprendre le dessus sur son jardin organisé. Et éventuellement, au fil du livre, il finit par enlever les portes de sa maison, enlever les fenêtres aussi, et le sauvage... prend possession de la maison jusqu'à une scène presque finale où il est couché sur son plancher avec un sac de pois surgelé sur les testicules parce qu'il y a eu une vasectomie qui a mal tourné. Et puis, il y a un cerf de Virginie qui rentre dans la maison.
Oui,
et où là,
c'est
vraiment la jonction où finalement, le sauvage a repris sa place. Là. Et je me rends compte que ce livre-là, c'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup. J'ai voulu un livre éclaté parce que j'en avais un peu marre de l'organisation des choses. J'avais envie que le sauvage possible de l'écriture, de l'inspiration et tout ça, reprenne un peu sa place dans mon travail. Et je pense aussi que c'est très, très, très lié à ce qu'on se disait tantôt, mon enfance dehors. Et toute cette vie qu'on s'organise. Moi, quand je regarde une maison dehors, quand je suis dehors, je regarde une maison le soir avec les lumières en dedans, j'étouffe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étouffe à l'idée de vivre dans une maison. Pourtant, j'y suis bien dans ma maison, mais il y a comme un, donc cette envie de faire éclater les portes et les fenêtres.
Mais l'écrivain est un horticulteur absolu, je dirais, mm-hmm. d'une certaine façon. Il est aussi, à la fois comme était votre père, qui range bien les lettres et qui les met bien carrées, etc., et puis qui les imprime comme ça, qui les organise de manière visuelle, comme vous le faites vous aussi, pour que ça soit bien sur la page, et puis évidemment qui est l'horticulteur en chef de ce qui apparaît sur la feuille.
Ouais.
Et pourtant, il y a toute la sauvagerie indomptable de ce que l'écrivain. S'il n'est pas sauvage, il n'est pas écrivain.
Non, c'est ça. C'est ça, je pense, où il faut que les deux forces ou les deux qualités nécessaires ne s'auto-mangent pas ou ne s'auto-nuisent pas, dans le sens où ne se nuisent pas l'une l'autre plutôt. C'est qu'il faut... L'idée, le travail de l'auteur, c'est d'organiser le sauvage. C'est de prendre quelque chose qui est là, au-dessus de tout le monde, que tout le monde perçoit mais ne comprend pas nécessairement, et possiblement que l'écrivain ne le comprend pas non plus, mais il va y mettre le grappin dessus, il va l'amener dans un livre ou dans une structure, puis il va essayer de l'organiser pour que ça tienne, là, et pour passer ça après aux gens, et que les gens puissent avoir comme une espèce de tranche de monde. Il va avoir une espèce de point de vue sur une part du monde, mais un point de vue organisé. Parce que sinon, c'est le chaos, hein, quand on regarde.
Total.
Quand
oui.
on regarde autour de nous, c'est le chaos total. Alors, nous, les artistes, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre un brin de ce chaos-là et de le mettre en forme, de le faire plier pour rentrer dans une structure et après ça, le passer aux gens. Mais il ne faut pas que l'un tue l'autre.
Mais quand je donne des ateliers d'écriture, je rappelle souvent que la première fois que j'ai publié un livre, l'éditrice m'a dit « Vous êtes l'océan, je vais vous mettre en aquarium ». Et c'était affreux, je voulais sortir par la fenêtre. Je voulais absolument sortir de là. J'ai dit « Au revoir, madame, finalement, je veux rien publier ». Bon, après ça, on se fait métier de mettre en aquarium.
Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi, j'ai toujours eu cette impression aussi, cette façon de rappeler que Stéphane Bourguignon est un écrivain, est un être sauvage, malgré le fait qu'il gagne des prix, il est très connu pour la télé, il a écrit une série télévisée qui est une série culte, etc. Et puis au milieu de tout ça, lui, qu'est-ce qu'il affirme? Que finalement, il est quelqu'un qui a décidé de laisser le jardin. C'est aussi une façon de rappeler qu'on est un écrivain avant tout, et de retrouver cette part-là en soi.
Oui, je pense qu'il ne faut pas se laisser berner par le succès ou par les prix ou par l'argent même. Je pense que en bout de ligne, on reste vraiment seul avec sa gueule, comme disait l'autre. Et à chaque jour, moi, je dois me rasseoir pour écrire parce que c'est là où, dans le fond, je suis le mieux. Et s'asseoir, c'est aussi comme s'installer devant un miroir, hein.
Ah oui.
Il faut que la gueule qu'on voit dans le miroir, il faut qu'elle nous plaise assez. Il faut surtout qu'on se sente en accord avec. C'est-à-dire, il faut pas nécessairement... Je pense qu'il y a une période dans la vie d'un artiste, mais peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, il y a une période dans mon travail où j'essayais d'embellir la gueule que je voyais dans le miroir, où je voulais que cette gueule-là me renvoie une image positive de moi. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette volonté-là. Je veux plus que cette gueule-là me ressemble et mais qu'elle soit le plus moi possible, mais même plus moi que moi. C'est-à-dire que comme si je voulais plonger dans chaque ride ou dans chaque poil pour être le plus moi possible. Comme être humain, évidemment, je pense qu'on aspire tout à ça. Ça prend une vie pour arriver à être soi, complètement soi. Il y en a qui ont ce talent-là plus jeune, hein, qui y arrivent facilement. Mais sinon, on passe notre vie à essayer de se déprendre de choses qu'on nous
a... J'en doute parce que c'est par étapes.
Ben,
quand on atteint une vérité de soi, elle s'effondre, il y en a une autre. Et...
Ah, moi, je ne crois pas ça. Ben, y a des choses qui s'effondrent, mais c'est jamais toute la structure qui s'effondre.
Mais...
C'est des choses qu'on pense qui sont de nous et qui ne le sont pas. À un moment donné, on fait « ah, ça, ça ne vient pas de moi. Ça vient de telle personne ou ça vient de tel facteur ou de telle chose. » Mais arriver à se comprendre et à se découvrir complètement...
C'est la quarantaine aussi, bon. Mais peut-être, mais c'est comme si vous disiez aussi que la vérité, la sauvagerie et le fait de vous reconnaître simplement ce que vous êtes, quoi ma gueule, comme disait l'autre, quoi ma gueule, ben moi ma gueule, voilà, c'est ma gueule. C'est aussi cette fidélité que vous nous avez dit être celle de l'adolescence, c'est-à-dire que un jour vous avez découvert que passer 3 heures avec des mots et écrire et trouver, c'est aussi ça, c'est une fidélité importante. Elle a 30 ans maintenant.
Oui, oui.
C'est vraiment comme un fil rouge, véritablement, dans votre vie.
C'est plus qu'une fidélité, c'est un besoin absolu. Moi, je me désagrège si je n'écris pas pendant un certain temps. Je perds toute contenance.
Combien de temps?
Ben, c'est plus long maintenant qu'avant. À l'époque, c'était 2 semaines. Maintenant, je dirais 2 mois... C'est pas beau, là. C'est pas beau à voir. C'est comme si... J'ai besoin de ça pour organiser le monde. Je pense que pour organiser mon monde. C'est comme
oui.
Je compare ma blonde qui arrive du travail puis qui doit me raconter sa journée pour la structurer. Puis moi, si j'écris pas, c'est comme si je perds prise sur les choses. Et tout devient une espèce de brouillard...
Alors justement, parce que... Bon, c'est vrai que c'est 2 moments importants. Vous aviez eu 2 prix Gémeaux pour La vie, la vie. Vous avez eu un prix... intercollégial, le prix intercollégial pour un peu de fatigue. Donc quand même, c'est une période de votre vie qui a été extrêmement créative, qui a été reconnue. Et puis, vous êtes passé à autre chose, parce qu'il y a ça aussi, c'est que on avait l'impression, il y a beaucoup de gens, quand vous aviez publié un peu de fatigue, qui disaient, mais pourquoi est-ce qu'il continue à publier des livres? Voyons, il pourrait se contenter de vivre avec son succès, avec sa série, avec... C'est pour ça que j'évoquais le fait d'avoir décidé de revenir à des choses authentiques, au fond. Sauvages, donc authentiques. Donc,
oui. C'est que l'écriture de télévision ne permet pas certaines choses que l'écriture romanesque permet, évidemment, et vice-versa, là, on s'entend, mais... Moi, j'ai besoin des deux vraiment parce que c'est deux façons complètement de raconter. Et évidemment que l'écriture romanesque est un voyage intérieur, je dirais, plus intense, mais plus exigeant aussi. Ça, c'est vraiment, écrire un roman, c'est vraiment comme partir en nage en se disant « Wow, j'espère qu'il y a une île en quelque part. » Mais tu vois rien, là, tu sais. Tu nages, puis il faut que tu nages des mois, puis à un moment donné, tu fais « Oh, OK, il y a peut-être quelque chose là-bas, allons voir, continue à nager. » Ce qui n'est pas la même chose dans l'écriture télévisuelle où tu as des balises, où très vite tu croises des gens qui te lisent, qui te donnent des commentaires, qui t'aiguillent un peu. Et puis, la densité...
Il faut que ça fonctionne en plus, c'est ça.
Pour le roman?
Non, pour l'écriture télévisuelle. Il faut que ça fonctionne.
Ah bien, à un moment donné, on rentre dans un horaire. Il faut que ça roule, il faut livrer, c'est une machine. Là. Je ne sais pas, Tout sur moi, par exemple, c'est une émission très modeste.
Ah oui, on va revenir
là.
À ça.
Même La vie, à l'époque, on avait un budget de 210 000 par épisode, ce qui était ridicule. Mais ce qui fait quand même, sur 13 épisodes, 210 000, près de 3 millions. Donc, on est dans une structure... Qui coûte cher et on implique 60 personnes avec nous. Donc, à un moment donné, il faut se mettre au travail sérieusement. Tandis que dans le roman, c'est un voyage vraiment en solo dans un pays hallucinant.
Comment vous faites, Stéphane Bourguignon? Est-ce que vous travaillez tous les jours? Est-ce que vous êtes discipliné avec des horaires ou est-ce que ça s'organise comme ça s'organise?
Donc, je travaille presque toujours, en fait... Je suis naturellement discipliné. Je n'ai pas besoin de me fouetter.
Mais est-ce que, justement, la discipline obligatoire, finalement, des sketchs hebdomadaires, puis de l'école de l'humour, puis des... ça ne vous a pas donné un cadre qui aussi, finalement, s'applique aussi au roman?
Oui, ça se peut.
Parce que la grosse difficulté de l'écriture de roman, c'est justement d'arriver à s'autodiscipliner.
Oui, moi, je n'ai pas de problème d'autodiscipline. Mais je suis capable... Aussi, en vieillissant, on commence à comprendre comment notre tête fonctionne. Moi, je sais, à un moment donné, les disjoncteurs sautent. Et là, il n'y a plus rien à tirer de moi. Ça va prendre 2, 3, 4 jours. Il faut que j'arrête à ce moment-là. Il n'y a vraiment plus rien. Je regarde. Toutes les idées que je peux sortir à ce moment-là sont mauvaises. Et je peux bien les écrire, mais ça va me prendre 10 fois plus de temps à écrire la chose que je vais écrire dans 3 jours. Quand mon esprit va être revenu. Donc, tout ça, c'est des affaires qu'on finit par comprendre à un moment donné, de ne pas se battre contre sa nature, trouver une façon que, je ne vais pas être ésotérique, mais que le canal soit ouvert en quelque part, parce qu'il faut comprendre que Il y a une grosse part d'inconscient dans le travail, dans le travail d'écriture. Le cerveau organise le thème, organise les personnages, tout ça. Il faut s'en servir de cette part d'inconscient-là. C'est-à-dire qu'il faut le laisser travailler, il faut lui laisser le temps. Par exemple, la nuit, il organise bien des affaires. Les périodes où on met un texte de côté pour y revenir un mois plus tard, je dis, le cerveau fait tout un travail de compartiment.
Puis il faut lui faire confiance parce qu'il le fait vraiment.
Il fait mieux que nous autres. Ah, oui. Fait que, donc ça, on apprend à vivre avec ça. Mais après ça,
il y a une période de sorte de pause de 3-4 ans, on va dire. Enfin, de pause pour nous, pas de votre côté à vous, évidemment. Mais où on a vu sortir de cette période de travail dans le chaudron, de travail dans la tête, de travail dans votre vie, etc., de choses qui ont bougé, et qui fait qu'en 2007, c'est une année où on a vu sortir les choses à la visibilité. En fait, c'est ça, parce que c'est ça le travail. Il y a le travail souterrain, et puis il y a la sortie. Ouais. Et la sortie, c'était la sortie de Tout sur moi, comme je l'ai dit. Alors là, c'est une série plus drôle, justement, où on revient. La ressemblance avec des personnages réels et des faits réels n'est ni fortuite ni involontaire. Et en même temps, la sortie, alors là, d'un livre qui, lui, n'est pas drôle du tout et qui est plutôt sombre, dramatique, qui pose des questions graves et qui est un regard sur le féminin, alors là, vraiment beaucoup sur le féminin. Qui est « Sont ton cœur, Laurie Rivers ». Ces deux, ils sont sortis parallèlement. Donc, ils ont été faits parallèlement.
Ils ont été faits.
Mais dans deux mondes vraiment qui semblent opposés, comme vous le disiez.
Bien, encore là, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut comprendre, quand on développe une série télé, il y a tout un processus qu'on appelle justement le développement, qui peut prendre environ un an avant même que le diffuseur, en l'occurrence Radio-Canada, nous dise « Oui, OK, on en veut ». Allons continuer l'écriture et tournons des émissions. Okay? Donc, ce processus-là qu'on appelle le développement, il s'agit pour le scénariste d'écrire quelques épisodes. Premièrement, de développer ce qu'on appelle une bible, c'est-à-dire mettre sur papier en quoi va consister le projet. Après ça, de commencer à écrire des épisodes, un, deux, trois épisodes, puis généralement deux autres épisodes. Et là, le diffuseur fait « oui, OK, on en veut ». Et quand il dit ça, là, on part à la rédaction dans ce cas-ci, des huit autres épisodes qui manquaient pour faire une série de 13. Donc, et pendant cette période-là, il y a beaucoup d'attentes, parce qu'on remet des textes au diffuseur, puis on attend une réponse. On remet des textes au diffuseur, on attend une réponse, puis à un moment donné, quand il y a tous les textes, avant qu'ils décident, oui, OK, on va vraiment prendre votre émission, on va la tourner et tout, il peut se passer 6 mois, 1 an, 8 mois, bon, surtout à Radio-Canada ces temps-ci. Et donc, un peu de fait, « Sonde ton cœur, Laurie Rivers » a été écrit à un moment donné, dans un de ces breaks-là, un break d'un an environ. Donc, la série a commencé. Je travaillais, ça, c'est une série vraiment humoristique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est inspiré de 3 acteurs qui existent vraiment dans la vie et qui s'est nourri de leurs propres anecdotes, mais beaucoup aussi d'inventions. Et donc, encore là, j'avais besoin d'équilibre. Donc, le roman que j'ai écrit s'est avéré aussi grave que ne l'est pas la comédie en question.
Ben, c'est ça, mais c'est beaucoup de personnages parce que, évidemment, le personnage principal de Tout sur moi est une femme. C'est pas Tout sur ma mère, mais Tout sur ma blonde. Et c'est aussi ce qui est extraordinaire là-dedans aussi, c'est la fictionnalisation du réel et la transformation du réel en fiction et le fait que c'est des acteurs, donc c'est à la fois des personnages et des vraies personnes. Oui. Et ça joue là-dessus beaucoup. Oui. Oui. Et dans Laurie Rivers, entre le personnage de la prof et de Laurie et de son élève qui quand elle arrive au début dans sa classe est obèse et elle c'est comme si elle voyait derrière ce personnage qu'elle est, cette jeune fille de 15 ans tellement énorme qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, elle est toujours la fille de sa mère, elle n'existe pas. Et parce que Laurie, j'arrive pas à le dire. Laurie Rivers voit en elle autre chose que ce qu'elle présente, essaye donc de mettre en place ce groupe pour maigrir, etc. Et finalement, c'est la jeune fille qui se déploie et qui vit sa vie et qui est un papillon qui est capable de vivre et d'avoir un enfant, etc. Alors que c'est l'inverse qui arrive pour Laurie Rivers, qui elle.
En fait, Laurie Rivers, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est l'instrumentation. En fait, ce qu'elle essaie, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de préparer une jeune fille
à éclore,
à être belle,
oui,
pour pouvoir vivre avec un jeune garçon,
oui,
que Laurie connaît aussi, pour que Laurie, par procuration, revive une histoire de son passé qui
la répare, mais en fait, ça la tue.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors, au moment où ces deux jeunes-là, finalement, arrivent à vivre quelque chose, chacun de leur côté, elle en meurt.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a une qui révèle l'autre, effectivement, oui, qui l'aide vraiment à éclore, alors que, évidemment, il y a l'opposition à la mère qui, elle, veut pas, qui voudrait garder sa fille pour elle, etc. Bon, oui, c'est... Mais c'est vraiment dans l'univers extrêmement féminin, la
oui,
fille, la mère, etc., alors que Un peu de fatigue, c'était beaucoup dans l'univers masculin.
Oui, quoique aussi... pour la première fois dans Un peu de fatigue, je faisais parler des... Le point de vue, la narration, le point de vue du narrateur changeait dans Un peu de fatigue, et il y avait des femmes qui prenaient la parole. Mm. Et ça, c'était suite à La vie, la vie, où j'avais eu pour la première fois de ma vie à faire parler des filles comme personnage, et où j'avais pris beaucoup de plaisir, et en fait, où j'avais trouvé... Et depuis ce temps-là, j'en démarre pas. Le personnage féminin est plus intéressant que les personnages masculins.
Ça, c'est une influence positive, par exemple,
Oui.
De...
oui, oui. Et aujourd'hui, encore là, les filles m'intéressent plus que les gars, comme personnage, et comme être humain aussi.
Comment est venue cette... Tout ce travail aussi sur beaucoup... Bon, c'est un roman très américain, Laurie Rivers, parce qu'elle a... Il y a aussi tout, à la fois ce culte du corps, ce culte de l'image, le fait d'être perdue dans les valeurs aussi, les histoires d'amour, bon, c'est pas très bien. Il y a vraiment comme une sorte de désarroi de l'identité américaine dans ce livre-là aussi. Et surtout les femmes qui sont à la fois très fortes et puis complètement perdu.
Oui.
Pourquoi ce sujet-là?
C'est un livre qui est apparu étrangement, ça. En fait, j'ai commencé à suivre l'actualité américaine à partir à peu près du 11 septembre, comme beaucoup de monde, hein, où mon regard s'est vraiment tourné vers ce pays-là. Et à la réélection de Bush en 1984, j'ai vraiment suivi les élections avec attention, tout le processus. Ça. Et j'étais sous le choc un peu. J'ai été comme happé par ce pays-là, en fait, parce que ce pays-là traverse depuis quelques années. Et j'étais indigné, premièrement, comme beaucoup de gens, hein. Déçu, je sais pas, j'ai été dérangé, profondément dérangé, plus que je ne l'avais jamais été avant. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Mais je ne savais pas comment du tout prendre ça, je ne savais pas, je ne voulais pas faire un livre de prêchi-prêcha non plus, qui allait dénoncer l'américanité, puis c'est pas ça du tout l'entreprise. Et puis j'ai laissé ça comme ça, et à un moment donné, je me suis dit... Ah, tiens, une enseignante dans une école très, très retirée, mais je ne savais même pas pourquoi. Et c'est vraiment un personnage qui est loin de moi, là. Je ne savais pas pourquoi. Et tranquillement, les choses se sont construites. Et finalement, tout ce que j'ai observé de l'Amérique ces dernières années s'est retrouvé, dans le fond, comme dans le tissu du livre. Mm. Et c'est ce que je voulais, dans le fond, où l'histoire n'est pas si importante que ça. C'est plus le tissage, dans le fond.
Il y a une ambiance,
mais
en plus,
oui,
c'est là. C'est dans le deep Midwest,
oui,
au beau, oui, milieu de la zone rouge américaine.
Oui. Oui. Et j'avais envie quand même de... J'ai été sur place parce que je voulais essayer d'éviter les clichés. Je voulais pas... C'est pas un livre qui condamne rien. Et en même temps, c'est une histoire qui pourrait se passer à beaucoup d'endroits parce qu'elle est premièrement humaine. Hein? Mais le décor... Je pense que le décor... J'ai trouvé un lieu enclavé en des montagnes dans lequel passe... C'est une vallée enclavée dans laquelle passe une rivière. Et à une des extrémités de la vallée, on a mis un barrage. Ce qui fait qu'on a encore plus le sentiment d'être prisonnier de cet endroit. 213 habitants.
La Snake River.
À 213 habitants. Et je me suis dit... Qu'est-ce que j'allais dire?
Très allégorique, effectivement. Il y a quelque chose, une espèce de grotte, là.
Mais il y a un enfermement.
C'est un panier de crabes aussi.
Mais ils viennent aussi de sortir de leur... En tout cas, on pense que les Américains viennent de sortir de leur enfermement, mais je veux dire, pendant un certain temps, ils ont été tellement repliés sur eux. Et il y avait tout le travail, en fait. C'est une immense métaphore sur l'Amérique. des dernières années.
Alors là, est-ce que... Donc là, contrairement à ce que vous aviez fait avec La Vie, la Vie, vous avez accepté une deuxième saison de Tout sur moi.
Une troisième, et, en fait.
La troisième qui recommence là.
Mais j'ai fait 39 épisodes avec La Vie, la Vie, puis là, je vais faire 39 avec Tout sur moi aussi.
D'accord.
Mais je ne sais pas s'il va en avoir une quatrième, en fait.
OK. Je sais pas si donc ça là, va ça se commence à partir de 2009.
Janvier, ouais, les 13, les épisodes de 26 à 39.
Alors, est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous avez parallèlement écrit un autre roman par
non.
rapport à... Non, là, vous êtes dans autre chose ou...
Rien.
Bon.
Je suis dans rien.
Bon. Parfait.
J'ai des idées, mais rien de concret.
C'est ça, vous disiez, les personnages sont venus me chercher. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, plutôt?
Bien,
ils viennent vous chercher
tout sous
la
moi, douche? C'est aussi intéressant. Encore là, je m'auto-intéresse, mais... Bon, ma femme est l'actrice principale de Tout sur moi, que j'ai connue sur La Vie, la Vie, en fait, un petit peu après La Vie, la Vie. Et quand je l'ai connue, elle vivait dans un bloc appartement et son meilleur ami vivait dans l'appartement à côté. En fait, la porte arrière de l'appartement de Macha donnait sur la porte avant d'Éric, dans le même corridor. Et quand je suis arrivé là, la première fois, les deux portes étaient ouvertes et il passait d'un appartement à l'autre comme si, dans le fond, les deux appartements leur appartenaient aux deux. Et j'ai vu Valérie arriver dans le portrait. J'ai entendu les anecdotes qui se racontaient, les affaires qui leur étaient arrivées, et ça n'avait aucun bon sens. Je disais, il aurait fallu être stupide pour ne pas vouloir saisir ça puis faire une émission de TV avec. Tout était là. C'était comme s'il n'y avait quasiment rien à faire. Les personnages étaient trouvés, les locations étaient trouvées. On savait qu'il fallait qu'il y en ait deux qui vivent dans le même building puis l'autre un petit peu plus loin. Je disais, tout était là. Les acteurs étaient trouvés. Bon, il restait juste à trouver une façon... de rendre ça aussi naturel que la vie peut l'être, et donc recréer le naturel, ce qui, mine de rien, est assez compliqué.
Mais c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, c'est comme la fiction, le réel transformé en fiction et vice-versa, et c'est aussi ce sur quoi on joue, parce que finalement, il y a aussi ceux qui disent film tiré d'un fait divers ou d'un fait réel. Ou tiré d'une histoire vraie, où on voit aussi sur les couvertures des livres histoire vraie. Bon, mais finalement, c'est quand même une histoire écrite. C'est quand même un film raconté. Oui. Donc, la frontière est toujours proche entre la fiction, l'autofiction, l'autobiographie. Oui. Enfin, on est constamment en train de parler de ça, et pourtant, écrire quelque chose, c'est quand même le recréer.
Oui, c'est complètement.
C'est une façon de jouer là-dessus.
En fait, c'est s'en inspirer. Mais moi, je pense que c'est juste un travail de paresseux. C'est d'en saisir, d'en capter tout ce qui marche déjà.
Ouais, mais...
Mais aussi, il y avait l'envie pour moi. Et moi, je connais plus d'acteurs depuis La Vie, la Vie. Je ne les fréquente pas vraiment, mais j'en connais plus. Et je trouve que c'est vraiment une belle race de monde. Et cette émission-là, Tout sur moi, c'est une espèce de coup de chapeau aussi à ces acteurs qui sont des gens vraiment game et vraiment... qui aiment beaucoup le jeu, qui aiment beaucoup le risque, qui aiment beaucoup se mouiller.
C'est avec lesquels on s'amuse bien?
Ah oui, avec lesquels on s'amuse bien.
Comme dans les ruelles de votre enfance, peut-être?
Bien, je pense que oui. Oui, parce que, premièrement, ils sont plus exubérants.
Ouais.
Bon, à part quelques poètes gays qu'on connaît, là, les romanciers ne sont pas tellement exubérants.
C'est sûr.
Mais non, ils sont drôles. Ils sont drôles, ils sont chaleureux, ils sont vivants, ils sont...
C'est retrouver la gang, comme vous disiez, ce que vous aviez dans votre enfance,
le
fait de
jouer. Je pense que oui.
À l'abri du regard des adultes, ils jouent, ils continuent à jouer, en fait.
Oui.
Et puis, est-ce que c'est une sorte de revanche sur le fait que vous vouliez être acteur aussi à un moment ou...
Je crois pas. Je joue cette année dans la série, d'ailleurs, dans 3 épisodes. C'est ça, ma véritable revanche, mais... non, je pense que... C'est vraiment... moi, je reste aussi sauvage. Je les aime de loin, mais je les aime, les acteurs. Et je pense que, aussi à les voir travailler, je trouve qu'ils font un métier vraiment dangereux, vraiment, vraiment risqué. C'est des gens qui ont un courage incroyable. Il faut juste s'imaginer une scène d'audition, par exemple, où l'acteur qui a eu 2 pages de texte, une scène sur tout un scénario, même pas le scénario au complet, quelques jours à l'avance, qui ne sait pas ça va être quoi la série, qui ne sait pas ça va être quoi le film, et qui se pointe dans une salle, pas de décor, pas d'accessoires, rien, où il y a une caméra, il y a un réalisateur en arrière, Puis il y a quelqu'un qui va lui donner la réplique, et la personne, c'est pas nécessairement un bon acteur, c'est quelqu'un qui, avec son texte dans les mains, il va faire la réplique. Et l'acteur qui vient passer l'audition, qu'il soit débutant ou achevé, c'est sûr que certains achevés passent moins d'auditions, ont moins besoin, mais en tout cas, qui ait beaucoup ou peu d'expérience, il doit se mouiller, là, mais comme jamais on se mouille dans la vie. Affronter le ridicule, la possibilité de se tromper complètement, comme sur un plateau de tournage devant 60 personnes pour une comédie, et tu dois faire quelque chose de drôle sans répétition, rien. Et ça se peut que les 6 premières fois que tu le fasses, ça soit pas drôle du tout. Mmh. Et que tu as 60 personnes autour de toi qui sont là pour te voir dans tes pires moments, dans les moments où tu te trompes le plus. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces... Je trouve que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de courage. Par exemple, au théâtre, jouer dans une pièce de théâtre, imaginez-vous, la première, le lendemain, toutes les critiques sont mauvaises. Et vous, le lendemain soir, vous remontez sur scène.
Ouais.
Et vous allez remonter encore pendant un mois de temps, en sachant pertinemment que le show n'est pas bon. Peut-être à cause de vous, mais peut-être pas non plus. Hein. À cause du texte, à cause de la mise en scène ou whatever. Mais vous allez l'assumer, vous allez le porter sur vos épaules jusqu'à la fin.
Est-ce que c'est plus courageux que d'être l'écrivain qui a écrit le texte? Moi, je pense que l'autre est obligé d'assumer?
Ben oui, parce que l'écrivain, il écrit, il donne ça, puis il s'enfuit en courant après. Il n'y a pas besoin d'être là quand ça va se faire.
Et l'autre doit l'incarner en plus et se mouiller.
Pas besoin. Lui, il a pris toutes ses précautions, il a pris tout le temps qu'il voulait, il a repassé ses textes. Et quand il pense que c'est ça, il lance puis il se sauve.
En tout cas, vous êtes bien mouillé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.
Merci
et pas seulement à cause de la neige dehors,
oui.
Mais... Alors, maintenant, c'est le moment où je passe la parole à notre public. J'ai un torticolis, moi, à force d'être tout le temps tournée comme ça. Alors, surtout, n'hésitez pas à venir poser les questions à Stéphane Bourguignon. C'est le moment où jamais. Vous avez 2 micros de chaque côté. Allez-y.
Allez-y, peut-être qu'on vous entend d'ici.
Oui, peut-être, mais sinon, venez ici. Ben, descendez, Colette. Madame de Mers, que je connais, c'est pour ça que je me permets, je n'appelle pas tout le monde par son prénom.
Ben voilà.
Voilà.
Bon, alors, j'ai adoré la vie.
Merci.
C'est sûr. Et puis, je pense aux gens de mon âge, de 60, 70 ans. Évidemment, vous n'en êtes pas là, puis c'est bien dommage. Mais par contre, vous pourriez peut-être faire un petit saut.
Dans
parce
le temps.
Que les gens de 60, 70 ans, ils sont multiples chez nous.
Mm-hmm, ouais.
Et ils sont assez secrets. On ne connaît pas leurs amours, leurs envies, leur jalousie, toutes les petites choses comme dans la vie. Mais ça se passe peut-être un peu autrement. Je ne sais pas si ça se passe vraiment autrement. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça, vous voir écrire quelque chose comme
peut-être
ça.
Peut-être un jour, mais va falloir...
Mais je sais, ça vous prendrait un petit bout encore. C'est dommage.
C'est parce que si je veux savoir de quoi je parle un peu... Mais je pense...
Je vous aiderai.
Okay. Mais je pense que c'est pas si différent que ça, honnêtement. Et je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est un peu ce qui a fait le succès de la vie, c'est que on s'adressait... Les gens disaient que c'était comme le portrait d'une génération, mais moi, je connais plein de gens de tous les âges qui écoutaient ce show-là.
C'est vrai.
Et dans le fond, je pense que c'est que on s'attardait à l'être humain dans ses petits mécanismes qui lui permettent de survivre au quotidien. Des fois, des mécanismes jolis, des fois, des moins jolis, mais je pense foncièrement humains et qui ne changent pas tant que ça avec l'âge, j'ai l'impression. Peut-être un peu la façon de faire, mais le fond reste un peu pareil.
Je pense que vous avez raison. Je pense que c'est un brin d'orgueil de ma part. C'est qu'on met les gens un peu plus vieux dans une case, puis je voulais leur donner un peu d'aura.
Non, mais je pense qu'il y a des particularités, par exemple, à certains groupes d'âge. Ça, c'est sûr. Comme dans la vie, le fait qu'ils étaient dans trentaine appelait certaines choses plus particulières. Et je suis d'accord avec vous que je pense que les gens... âgés, les gens d'un certain âge sont un peu représentés dans les téléromans, je pense, que je regarde pas beaucoup, mais je sais pas si on s'attarde vraiment à tout le potentiel dramatique dans le sens
je pense
ça peut être comique aussi, là,
extraordinaire,
hein?
Parce que
mais je pense aussi.
Les petits secrets des gens plus vieux, c'est bien caché.
Oui, mais je pense que, j'ai l'impression que ça va venir, par exemple, madame, parce que toute la population vieillissant, ça va forcément les auteurs vont se rapprocher aussi de
Bon, ben, faut le faire. Alors.
De cet univers.
Ben, je vous remercie.
Ben, merci à vous.
Je remonte dans mes appartements. Okay. Au revoir.
Au revoir.
Si je peux créer un personnage dans Tout sur moi, une voisine
oui.
qui aurait le punch et la fougue de Madame de Maistre.
Oui, c'est ça. Ben, c'est inspiré de Madame
D'autres de questions Alors
Oui.
Est-ce qu'on écrit forcément sur les choses qu'on connaît
Ben, je dirais qu'au départ, oui. Moi, ma vie, en tout cas professionnelle, vraiment, ça se sépare en deux, j'ai l'impression. Le principe du geyser, l'avalanche de sable, principe du geyser, un peu de fatigue, la vie. Pour moi, ça fait partie des choses que j'ai écrites en me prenant comme premier matériau, comme matériau principal. Tandis que Tout sur moi et Sonde ton cœur, Laurie Rivers, c'est clairement un travail plus d'observateur et même à la limite de journaliste. Où je rencontre, par exemple, pour Tout sur moi, j'ai rencontré les trois principaux intéressés, je leur ai posé une série de questions. Pour le Rue River, j'ai été me promener sur le terrain, j'ai ramassé des journaux, j'ai pris des photos, j'ai des lieux, j'ai vraiment documenté le plus possible mon travail. Et d'ailleurs, c'était ma volonté dans Sonde ton cœur de disparaître complètement comme auteur de ce livre-là et que les gens ne puissent pas dire « Ah oui, garde, c'est Bourguignon » à cause de la façon d'écrire. Je voulais que le sujet prenne toute la place.
Il y a toujours un cycle plus ou moins, entre guillemets, autobiographique, auto-inspiré, auto...
Pas du tout là-dedans, pas du tout autobiographique.
Non, pas là-dedans, mais non. Je veux dire, il y en a toujours, souvent dans la dans un cheminement d'auteur, il y a une partie
oui,
de ben, sa vie
souvent
qui
la
est
première,
auto,
hein.
Et puis après ça, qui...
Ouais, c'est
pas
ça.
Forcément au début d'ailleurs, parce qu'il y a des
c'est
écrivains
vrai
qu'il y en a
pour qui... plus à la fin. Hein,
ça revient au milieu ou à la fin, mais il y a toujours une phase qui est plus autobiographique ou inspirée de...
Mais je pense que c'est un processus pour à part les artistes qui sont vraiment solides ou qui ne veulent pas faire face à eux-mêmes. Je pense que le travail de l'artiste doit nécessairement passer par un travail d'apprivoisement de lui-même pour pouvoir mieux travailler après, j'ai l'impression. Il y a des artistes qui n'ont peut-être pas besoin parce qu'ils partent déjà très solides ou alors qu'ils fuient le plus possible ce moment-là parce que c'est un moment pénible, dans le fond, comme aller en thérapie d'une certaine manière où on ne découvre pas que des choses... belle et rose et tripante. Mais je pense que pour évoluer en art, il faut faire face à ça. Mais peut-être des disciplines où c'est moins pire, où c'est moins nécessaire, où l'instinct peut travailler plus. Mais il me semble, pour une démarche d'auteur, c'est difficile d'évacuer.
Je pense que la grande différence, bien qu'on dise toujours que l'écriture est thérapeutique, j'hésite toujours là-dessus, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas l'objectif. Parce que l'objectif de l'écriture, c'est de raconter une histoire. Et ce n'est pas d'avoir une explication, comme quand on va en thérapie.
Non.
C'est pour avoir quelqu'un qui vraiment... Donc, c'est peut-être thérapeutique, l'écriture, mais de surcroît.
Oui, c'est ça.
Ça ne peut pas être
l'objectif. En fait, quand on regarde le livre qu'on a écrit, un coup qu'il est écrit, on peut voir beaucoup de choses dedans.
Oui.
Mais je ne sais pas, ce n'est pas un travail de divan pendant qu'on l'écrit.
Ben non. Sinon, je pense que c'est dans ces cas-là qu'on est le plus fermé, justement.
Bien, je pense qu'il faut que l'écriture soit d'abord un acte vers les autres. Je pense, en tout cas, si...
Ah, on revient au début de l'entrevue. D'autres questions?
Comment faites-vous pour vous mettre à la peau de votre personnage féminin, surtout quand vous avez à écrire...
Je vois... Qui pose la question? Oui, je vous entends, je ne vous vois pas.
Ah, okay. Comment faites-vous pour vous mettre à la peau de vos personnages féminins?
Oui. Des scènes de sexe? Wow! Je suis obligé de répondre à ça. Ben, c'est vraiment intime comme... Ben, écoutez, je pourrais pas vous dire... oui, je pourrais vous dire, mais je vous le dirai pas. Non, non. Quand je travaille avec un personnage féminin, je pense que... C'est bête à dire, là, mais je pense que comme homme, j'ai une grosse part de féminin. J'ai aussi... honnêtement, passé beaucoup plus de temps dans ma vie à observer les femmes qu'à observer les hommes. J'ai partagé toujours ma vie avec des femmes et je les ai vraiment regardées sous toutes leurs coutures. Et je pense, contrairement à ce que la majorité des hommes disent, moi, je pense que je comprends assez bien les femmes, beaucoup mieux que je comprends les hommes, d'ailleurs. Ce qui fait que...
Vous avez une sœur, en plus.
J'ai une sœur aussi, oui. Mais c'est beaucoup plus les femmes avec qui j'ai partagé ma vie qui... Et donc, je pense que je les comprends. Je pense, toujours je pense. Je pense que je les comprends. Je pense que je ressens un peu ce qu'ils ressentent. Quand ils le ressentent, je pense que je le vois dans leurs yeux. Et j'ai l'impression de pouvoir, en tout cas, inventer une certaine portion et que dans cette portion-là, je sois que j'ai pas tort. Je pense pas que je puisse faire le tour du spectre.
Ils arrivent de consulter l'agent féminin pour vous rassurer.
Non. Non, mais par exemple, je sais comme là, ma femme, qui est comme ma première lectrice, je sais bien qu'elle me le dirait s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Mais en même temps aussi, je veux dire, il y a autant de femmes différentes qu'il y a autant de femmes, comme les hommes sont différents aussi. Donc, il faudrait que j'écrive quelque chose de vraiment pas cohérent ou pas logique pour qu'il y a personne qui puisse se retrouver dedans. Tu sais, je pense que, dans le fond... Les hommes et les femmes sont-ils si différents que ça? Je ne sais pas.
Alors, je vais poser une dernière question parce que on doit arrêter. Je vois ici une de vos traductrices qui me fait penser au fait que je l'ai rencontrée ce week-end. Elle m'a dit qu'elle était une de vos traductrices. Et vous êtes un auteur traduit dans différentes langues. Et comment est-ce que, justement, vous voyez revenir vos personnages, et même les personnages de La Vie, bon, on l'a dit, ils sont en français, mais ils sont aussi en anglais à CBC. Comment vous les voyez revenir dans une autre langue? Quel est votre rapport, justement, à vos livres traduits? Et est-ce que c'est quelque chose...
Honnêtement, j'en ai traduit en syrien, puis je peux pas vous dire mon rapport au syrien.
D'accord,
parce que
non, mais
je comprends vraiment rien.
Le fait qu'il voyage comme ça dans le monde, oui. Et d'autres langues, ou... en anglais, c'est peut-être plus proche.
Ouais, déjà. En anglais. Mais
est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe ou qui comment vous voyez ça, le fait d'être justement ça vous c'est... échappe aussi complètement.
Oui, mais ça c'était très intéressant d'aller se mesurer au monde un peu, d'aller voir quelle résonance, par exemple, un personnage ou une situation ou une idée de série peut avoir en Belgique, en Suisse ou en France. Non, ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, on commence à jouer du coude avec le monde entier, dans le sens où on n'est plus juste chez soi à se dire « Ah oui, on est bon, faisons-nous plus... » Il faut aller vers l'extérieur puis faire « Ah oui, mais il se passe ça aussi en Australie, puis il s'est passé ça en France en telle année, puis oups, je parle au niveau de la création, là. » Puis, il faut voir en quoi la vie, comment ça s'inscrit là-dedans, quelle valeur ça a. Tout sur moi, c'est la même chose. Un roman, évidemment, encore là, je reviens avec l'espèce de corpus mondial pesant.
Mais est-ce que vous suivez vos livres, vous, quand ils sont traduits dans les pays? Parce que ça aussi, c'est rencontrer d'autres lecteurs, des gens qui réagissent différemment.
Non, moi, je fais le moins d'affaires possible. Mais en même temps, je dis comme on ne m'a pas invité non plus en Syrie. Puis sinon, en France, il s'est passé quelque chose avec mon premier roman. Les autres... C'est toujours des rentrées vraiment low-key, comme on dirait en anglais, vraiment low-profile, où il se passe presque rien. Puis en anglais, le premier n'a pas eu une bonne réception. D'ailleurs, je n'aimais pas cette traduction, moi, du premier. Et c'est peut-être là aussi où peut-être votre question revient. Je ne trouvais pas la traduction... Je trouvais pas que le roman équivalait, même dans sa différence linguistique. Et pas nécessairement en termes de qualité, mais en termes d'univers. Là. Et ça, c'est particulier aussi. Mais quand on écrit, par exemple, pour la télé, on est habitué à donner nos choses et qu'un réalisateur, des acteurs, se l'approprient d'une certaine manière et en fasse quelque chose d'un petit peu différent. Ouais. Donc, il faut apprendre à se détacher. C'est pour ça que je les regarde, les affaires se promener, mais je suis pas là en train de les flatter puis découver puis de les tenir sous une couverture parce que je voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose. Ils partent dans le monde, puis c'est comme des enfants. À un moment donné, tu dis, hey, fous-moi la paix, va-t'en de la maison, puis tu reviendras.
Et puis ils vivent leur vie, plutôt bien d'ailleurs.
Voilà.
Stéphane Bourguignon, merci infiniment.
Merci. Merci beaucoup.
Évidemment, je vous invite à le retrouver là où il est aussi dans ses livres. On est à la Grande Bibliothèque, vous pouvez les emprunter, les lire, les offrir aussi pour les, 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 les fêtes qui s'en viennent. Et puis nous, on se retrouve en février, donc pour commencer une nouvelle saison 2009. Merci beaucoup.
Merci.